Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Et bonjour Paul Faury.
Oui, bonjour Jeannot.
Ça marche, c'est génial parce que quand Jeannot est avec les techniques, on ne sait pas jamais. Paul Faury, qu'on avait reçu il y a quelques semaines ou mois de cela, c'était à l'occasion des rendez-vous proposés par l'Association pour la culture populaire dans les Landes et ces fameux rendez-vous autour de la culture gasconne qui s'étaient déroulés à l'auberge landaise. Je m'en souviens très bien. Vous l'avez passé, je n'ai pas eu le temps de le caler dans mon agenda. Je suis désolé, Paul.
Oui, c'était au mois de novembre, dans le cadre de l'Autunade. Alors, organisé par la CPL à Mont-de-Marsan.
Alors, une autre de vos bérets, une autre de vos casquettes, mais on va rester sur le béret. C'est la sortie de votre tout dernier ouvrage, L'affaire du mal charbon, et donc l'homme de plume que vous êtes, qui a à voir, je crois, avec votre passé professionnel. Expliquez-moi tout ça et dressez-moi un petit peu le contexte et le décor de ce livre, Paul Faury.
Alors, ce livre, effectivement, je l'ai sorti très récemment, fin novembre. Et le personnage, si vous voulez, central de ce livre, c'est un inspecteur du travail qui a travaillé dans le Tarn de 1901 à 1918 et qui s'est en particulier intéressé à cette maladie qu'on appelle l'infection charbonneuse, le charbon, qui n'a rien à voir avec le minerai ou le combustible, mais qui traite cette maladie des moutons transmissible à l'homme. Voilà, alors je... Moi-même, effectivement, j'ai été pendant 39 ans dans les services déconcentrés du ministère du Travail, et notamment ici dans ce département des Landes, où j'ai démarré ma carrière comme contrôleur, puis je suis revenu dans les années 80 comme inspecteur du travail, je suis resté 10 ans, après j'ai évolué directeur adjoint dans le Tarn à Bordeaux, et puis j'ai terminé ma carrière comme directeur départemental du travail, 5 ans en Ariège et 7 ans ici dans le département des Landes. Voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai voulu un petit peu jouer les prolongations en me penchant sur le passé d'un inspecteur particulièrement exemplaire, je dirais.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage, alors ce contexte tel que vous venez de le décrire, et puis l'envie de mettre en lumière cet épisode ?
Alors, si vous voulez, moi, je suis un passionné d'histoire, d'abord, histoire en général, et je me suis toujours intéressé à l'histoire de l'inspection du travail, en tant qu'inspecteur du travail moi-même. Et c'est comme ça que, avec Jean Cavalier, si vous voulez, le hasard a fait que nous avons trois résidences administratives communes. Il a travaillé une vingtaine d'années dans le Tarn, je suis originaire du Tarn, j'ai travaillé moi 5 ans à la direction départementale à Albi. Ensuite, il a fait un petit passage très court, comme moi d'ailleurs, de 2 ans. Moi, j'ai fait 3 ans en Côte d'Or à Dijon. Et puis, il a été cet inspecteur, inspecteur divisionnaire à Bordeaux, pendant 17 ans. Un inspecteur divisionnaire à l'époque, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt un directeur régional, si vous voulez. Il couvrait et il chapeautait l'ensemble des inspecteurs du travail du Grand Sud-Ouest. Voilà, donc. À chaque fois que j'allais, si vous voulez, aux archives faire quelques recherches sur l'inspection du travail, ben je tombais assez régulièrement sur Jean Cavalier. Et c'est comme ça que pendant quasiment 25 ans, j'ai accumulé un certain nombre de documents le concernant.
Vous l'avez connu personnellement, Jean Cavalier ?
Ah non. Il est né en 1871 et il est décédé en 1948. Donc, moi, je suis né en 1952, j'ai 70 ans cette année, donc je ne pouvais pas le connaître. En revanche, je connaissais bien, si vous voulez, le professionnel, l'inspecteur du travail, mais quand j'ai écrit ce livre, je ne connaissais absolument rien de la personne. Je n'avais pas de photos. Et donc, si vous voulez, j'ai voulu faire un livre qui soit évidemment très sourcé et qui s'appuie sur des documents historiques. C'est pour ça que je l'ai appelé plutôt récit historique que roman historique. Mais j'amène le lecteur, si vous voulez, dans le quotidien de Jean Cavalier. Et donc, il y a beaucoup d'imaginaire dans ce livre, puisque j'ai imaginé des situations de contrôle, bien sûr, et puis des rencontres avec un certain nombre de personnages tarnés, bien sûr, de l'époque. Alors, j'ai créé des dialogues. Tout ça, évidemment, en respectant l'esprit, c'est-à-dire tout ce que je savais des différents personnages historiques que je mets en scène dans cet ouvrage.
Alors, c'est une sorte d'enquête autour d'une enquête, c'est comme ça que c'est bâti ?
Absolument. Écoutez, il y a un journaliste qui a écrit déjà sur mon bouquin une biographie qui se lit comme un polar. Et je trouve que c'est un très bon résumé, hein, puisque j'ai voulu donner du corps, si vous voulez, et de l'épaisseur humaine, si vous voulez, à mon personnage, de façon à intéresser le lecteur. Parce que le piège, si vous voulez, quand on parle de l'inspection du travail ou d'une autre fonction administrative, c'est de tomber dans, la monotonie administrative et tout ce qu'elle a un peu de rébarbatif, quoi, et de peu intéressant. Donc, j'espère en tout cas avoir évité ce piège.
Et donc, vous avez romancé un tantinot, mais les rencontres, comme des choses que vous avez aussi inventées, qui sont le fruit de votre imagination autour de la réalité de cette enquête de Jean Cavaillet.
Absolument. Sur le fond, tout ce que je raconte est basé sur des documents écrits. Donc, ça s'est vraiment passé. Mmh. Ça s'est pas forcément passé comme je le raconte, ouais, puisque je n'y étais pas, bien évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, un de mes premiers lecteurs m'a envoyé un message en me disant, Monsieur Faury, quelqu'un que je connais pas, seul un inspecteur du travail pouvait écrire le bouquin que vous avez écrit, tel que vous l'avez écrit, en tout cas. Mmh. Voilà. Mmh. Pourquoi ? Parce que il y a un peu de Paul Faury là-dedans, hein, puisque c'est à travers ma propre expérience d'inspecteur que j'ai fait vivre, revivre en tout cas, hein, Jean Cavaillet, mais encore une fois, en état le plus fidèle possible au contexte et à toutes les sources que j'ai pu recueillir à l'occasion de mes recherches dans les différentes archives, les archives du ministère bien sûr, mais aussi les archives locales, hein, à Bordeaux, à Albi, pour l'essentiel.
Alors vous avez évoqué déjà le Malcharbon. Qu'est-ce que c'est le Malcharbon, Paul Faury, exactement ?
Alors le Malcharbon, si vous voulez, c'est le dossier sur lequel Jean Cavaillet va travailler. Et c'est le dossier qui va le rendre, entre guillemets, célèbre, dans lequel il va exprimer, toutes ses qualités, hein, professionnelles. Alors, le Malcharbon, qu'est-ce que c'est ? Le Malcharbon, c'est une maladie, d'abord, animale, et qui touche, au principal, les ovins, hein, les troupeaux de moutons. On peut quand même préciser que les équins ne sont pas à l'abri du bacille du charbon, et même les bovins. Hein. Mais pour l'essentiel, ça touchait les moutons. Et à Mazamé, si vous voulez, on a développé une activité unique au monde, puisqu'il n'y a pas eu, Mazamé n'a jamais eu de concurrence véritablement dans cette activité, qui s'appelle le délainage des peaux de mouton. Alors en quoi ça consiste vous savez que la laine, hein, le sourcing de la laine, c'est pour l'essentiel la laine de tonte. Et un mouton, évidemment, on le tond à plusieurs reprises dans son existence. En revanche, on le tue une fois, et le délainage consiste justement à séparer la laine du cuir, voilà, de la peau de mouton. Et cette histoire à Mazamé, cette histoire industrielle, elle commence en 1850, où des Mazamétains vont passer des contrats avec les grands pays du Sud, au début essentiellement l'Argentine, la région de la Plata, Argentine-Uruguay, et ils vont rencontrer les propriétaires des abattoirs et quelques grands propriétaires d'élevage, et ils passent des contrats qui consistent à faire revenir à Mazamé la peau des moutons morts. Et ensuite, on fera la même chose avec l'Afrique du Sud, le Cap, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, voilà. Mais aussi avec les pays du Maghreb et les pays d'Europe. Voilà. Et donc, à Mazamé, on fait venir ces peaux. Alors tout ça, cette activité, si vous voulez, elle met 30 ans à véritablement s'installer et démarrer. Hein. Au début, évidemment, le démarrage est très lent. Mais à peu près en 1880, on a une activité qui, à Mazamé, qui commence à ressembler véritablement à quelque chose. Et en 1900, quand Jean Cavaillet arrive à Castres, où il est basé, cette activité représente déjà plus de 3000 emplois sur Mazamé. Vous voyez l'essor que ça a pris en 50 ans.
Voilà. Sur une ville de combien d'habitants à l'époque ?
Alors, sur une ville qui, à l'époque, faisait 12 000 habitants. Hein, vous voyez l'impact. Ça va être une prospérité. Progressivement, Mazamé, qui historiquement est une ville textile, hein, avec des activités lainières dans la région Castres-Mazamé importante, les Mazamétains vont progressivement se reconvertir dans le délainage, et notamment dans les années 1880, à l'occasion de crises, hein, du secteur textile. Et dans le délainage, ils vont y gagner beaucoup d'argent. C'est une activité spéculative, encore faut-il en avoir les moyens. Si on est capable d'acheter à bas prix ces peaux de mouton qui, avant que les Mazamétains les achètent, étaient un déchet et allaient à l'écarissage, hein. Donc, Voilà, c'est, Mazamet, c'est l'exemple d'une valorisation d'un déchet.
Hein. Déjà du recyclage.
Voilà, c'est déjà du recyclage, voilà, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, bien évidemment. Voilà. Et alors, le bain de charbon, qu'est-ce que c'est? Justement, dans ces peaux de mouton, dans ces pays du Sud, au Maghreb, en Espagne, etc., on faisait venir ces peaux. Un certain nombre de moutons, évidemment, étaient atteints par le bacille du charbon. Le bacille du charbon qui était identifié en tant que tel au milieu des années... au milieu du 19e siècle, par Daven en France, puis Koch en Allemagne, et Pasteur ensuite, voilà, autour de 1860. Donc c'est la consigne qui était donnée quand des moutons étaient atteints du mal charbon, c'était de creuser une fosse, d'enterrer à l'état les moutons dans une fosse commune, de choler et puis de refermer la fosse.
Choler.
Ajouter de la chaux, hein, tout simplement.
Je ne connaissais pas ce verbe.
Le terme chaud.
D'accord.
Ajouter de la chaux.
Avec C-H-A-U.
Alors, A-U, ouais, A-U-L-E-R. Très bien, très bien. Voilà, donc ça c'était la consigne. Seulement, voilà, l'esprit, l'appât du gain, l'esprit lucratif faisait qu'un certain nombre d'éleveurs, évidemment, dépeçaient ces moutons malades du mal charbon et vendaient la carcasse, la peau, enfin, vous voyez, bon, voilà. Et c'est de là que naissait le risque, puisque ces peaux, quand elles arrivaient à Mazamet, alors c'était un petit nombre de peaux, mais quand ces peaux étaient contenait justement le bacille du charbon, eh bien les ouvriers du délainage mazamétain, en les manipulant, rentraient au contact de ce bacille du charbon. Ce bacille du charbon, la plupart du temps, il se réfugiait sous les ongles des ouvriers. Et aujourd'hui, on connaît bien le phénomène des micro-démangeaisons. J'ai entendu récemment qu'il paraît qu'on se touche le visage sans l'apercevoir, sans même en avoir du tout la sensation, 3000 fois par jour. Voilà. Et donc, il suffisait de ces contacts répétés pour qu'un bouton charbonneux apparaisse, soit au visage, soit aux mains, ou aux avant-bras, c'était là la localisation. Et ce bouton, rapidement, au bout de quelques jours, il donne une pustule, ce qu'on appelle une pustule maligne, avec une escarre, de couleur noire, d'où le nom de mal charbon, vous voyez, ça vient de là, et puis du sang noir aussi des moutons, vous voyez, on a ces deux interprétations sur l'origine du terme charbon. Et le problème, c'est que si ce bouton n'est pas cautérisé, et si le bacille rentre dans l'organisme, c'est-à-dire traverse l'épiderme et le derme, et rentre dans l'organisme, très rapidement, en 2-3 jours, il y a une multiplication tellement, c'est un phénomène de septicémie, puisqu'on l'a appelé aussi la septicémie charbonneuse, et très rapidement, les fonctions essentielles, cœur, rein, foie, sont attaquées en même temps, et le pronostic vital est très vite engagé. Et je vous donne un chiffre, Jean Cavaillé sur 10 ans, de 1902 à 1910, aura à connaître 64 cas, et sur ces 64 cas qu'il nous décrit, il y en a 12 de mortels, vous voyez, donc quasiment 25% de cas mortels, ce qui est quand même un taux de létalité particulièrement important.
Mmh. Et donc ce sont ces aventures et ces recherches autour de Jean Cavaillé que vous suivez sur cet ouvrage, l'affaire du mal charbon, où il va le mettre en lumière et combattre, essayer de résoudre cette équation et de résoudre ce problème.
Alors, il va effectivement s'investir grandement dans cette activité et il va mener une véritable enquête. Parce qu'au départ, Jean Cavaillé, c'est un professeur de lettres. C'est un fils d'agriculteur qui fait un parcours scolaire et universitaire brillant. À 24 ans, il a une licence de lettres et il est nommé professeur de lettres dans un lycée à Toulouse. Et en 1930, 6 ans après, il décide de quitter l'enseignement et de passer le concours d'inspecteur du travail. Et donc, il fait partie, si vous voulez, puisque le corps national des inspecteurs du travail date de la loi du 2 novembre 1892, vous voyez, donc 8 ans avant. Et donc, il fait partie véritablement de la première génération de ces inspecteurs du travail. Et ces inspecteurs du travail, ils inventent tout, puisqu'ils travaillent chez eux, tout seuls, Ils ont des contacts avec qui? Avec un préfet ou un sous-préfet, avec un procureur de la République, avec l'inspecteur divisionnaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est au chef-lieu de la région, en quelque sorte. Et voilà. Hein. Donc, il n'y a pas de véritable documentation, il n'y a pas...
Ils inventent le métier.
Ouais. Et Jean Cavaillet, 3 mois après son arrivée à Castres, il est confronté à un premier cas. Et au mois de janvier, il arrive le 1er octobre 1901, en janvier 1902, il y a un premier cas, en février un deuxième, et ce deuxième est mortel. Et c'est ça qui, je crois, le frappe, et qui va l'amener à s'investir, et alors, il va y mettre du temps, il va y mettre plusieurs années, mais rapidement, il va se documenter. Il va prendre des contacts avec le professeur Langlois, notamment à Paris, qui est le spécialiste, éminent spécialiste de la question. Et ils vont se compléter d'ailleurs, parce que lui, il est un observateur de terrain dont les élites parisiennes ont besoin, parce qu'eux, ils sont éloignés du terrain. Et il va faire un travail d'enquête, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le premier combat qu'il va mener, c'est la déclaration, parce qu'il y a la déclaration des accidents du travail à l'époque, vous imaginez ce que c'était, en plus ça passait par le maire envoyait la déclaration à l'inspecteur du travail, tout ça a été long, donc les inspecteurs étaient prévenus en retard, hein. Donc si vous arrivez après la bataille, c'est compliqué, je dirais, de faire une enquête, et donc progressivement, mais à chaque fois, les 62 cas là, qu'il nous décrit, on sait où ça s'est passé, on sait quand ça s'est passé, on sait le métier au sein du délainage qu'exerçait la victime, on connaît la localisation de la pustule et on connaît le résultat final, c'est-à-dire guérison ou décès. Voilà. Et donc on voit bien que pour recueillir tous ces éléments, il a fallu que il aille rencontrer les victimes. Alors guéris ou les veuves ou veuves quand il y avait un décès, les contremaîtres, les patrons, les médecins, enfin voilà, tous les gens qui tournent autour de cette maladie pour comprendre. Et il fait ce travail-là et à chaque fois il fait un rapport et vous l'imaginez bien, ce rapport il l'envoie à son directeur divisionnaire à Toulouse qui lui l'envoie à Paris et à Paris quand on voit la pile des rapports monter, on se dit il faut convoquer Jean Cavaillet à Paris et à peu près à partir de 1904-1905, il est repéré par l'office, puisque le ministère du Travail n'existe pas à l'époque, il existera en 1906. L'inspecteur du Travail dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais par contre, il y a une structure, si vous voulez, qui s'appelle l'Office du Travail, National du Travail. Et au sein de cet office-là, on invite Jean Cavaillet à participer à des travaux qui vont préfigurer, si vous voulez, une réglementation spécifique sur l'infection charbonnelle.
C'est le premier livre, le premier ouvrage autour de Jean Cavaillet qui est écrit, Paul Faury.
Ah oui.
Oui, c'est oui, ça. Oui. C'est ah, oui, vous ça. Qui avez défriché tout ça, quoi.
Oui. Oui, hein oui okay. Je vais vous dire, ce qui m'a convaincu, de l'importance de Jean Cavaillet, de la profondeur du personnage, de l'épaisseur du personnage, c'est il y a une vingtaine d'années, au niveau du ministère du Travail, on a ce qu'on appelle un comité national d'histoire. Et la personne en charge de ce comité allait régulièrement aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, sortait des dossiers d'anciens collègues et faisait une fiche. Et donc il y a 20 ans, Dominique Guyot, puisque c'était lui à l'époque, a sorti une fiche qui retraçait sommairement la carrière de Jean Cavaillet. Et c'est là que j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait beaucoup écrit, puisque notamment sur le mal charbon, c'est l'appellation qu'on donne à la maladie à Mazamet, il a écrit un livre qui s'appelle « Le charbon professionnel ». Ce livre, il l'a écrit en 1911, et c'est un livre, si vous voulez, dans lequel il a capitalisé 10 ans d'acquis, 10 ans de connaissances, 10 ans d'expérience de terrain sur l'infection charbonneuse à Mazamet.
L'affaire du mal charbon, pour aller encore un petit peu plus loin dans cette aventure, est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage, et se le procurer, Paul Faury?
Alors, ici, sur Mont-de-Marsan, il est dans les principales librairies, hein, à la librairie Lacoste, à la librairie Caractère. Très prochainement, il va être à l'espace culturel du Leclerc au Grand Moon. Et puis, on peut se le procurer aussi directement auprès de moi, hein, tout simplement en s'adressant à moi sur mon adresse email, hein, très simple, paul.faury@orange.fr. Et je dirais sur la région montoise, il n'y a pas de frais de port, puisque je me ferai un plaisir, un honneur de l'acheminer jusqu'à tous les gens qui voudraient bien se le procurer.
Et rencontrer Paul Faury en chair à noce, avec dans le cadre aussi autour de cet ouvrage et de cette sortie, un cycle de conférences avec ce soir un rendez-vous d'ailleurs,
Paul. Oui, Faury. Alors dès cet après-midi, pour des gens qui veulent en savoir un petit peu plus, une première conférence que je donnerai à Basconz, auprès de mes amis basconnais, puisque je suis à la fois, je réside pas à Basconz, mais j'y chante et je suis membre avec mon épouse de l'association Urouz et Arditz, c'est l'association du troisième âge basconne. Voilà, donc à la salle du Régenton, à 14h30, je donnerai une petite conférence de présentation du livre. Voilà, et puis il y a un deuxième rendez-vous qui est prévu à la fin du mois, c'est le samedi 26 février. À 10h à la librairie Lacoste, hein, qui, vous le savez, en général le samedi matin, accueille un certain nombre d'auteurs, ouais. Dont je serai l'invité de la librairie Lacoste le 26 février. Voilà, et puis j'imagine qu'il y aura aussi d'autres, puisque je suis en contact avec des bibliothèques et des médiathèques pour aller présenter mon livre à des lecteurs. Mmh. Voilà, donc progressivement, ce programme va s'étoffer.
Et vous reviendrez vers nous pour nous faire savoir les différentes conférences et rencontres que vous aurez à faire autour de cet ouvrage. Ça donnera l'occasion de rappeler.
Bien sûr, hein. je vous régulièrement, je vous compléterai le programme au fur et à mesure.
L'affaire du mal charbon de Paul Faury est sortie aux éditions.
Alors aux éditions France Libris. Hein, d'Orthez, petite maison d'édition bien sympathique avec qui j'aime bien travailler.
Merci beaucoup Paul Faury de nous avoir présenté cet ouvrage et ce personnage, Jean Cavet, une enquête passionnante et puis j'allais dire un joli pavé, non c'est pas tout à fait l'expression, mais il y a de quoi lire quoi.
Ah oui, il y a 420 pages à lire, ouais. Voilà. Mais dans un style que j'ai souhaité, je dirais, le plus abordable possible.
Merci beaucoup, Paul Faury.
Un grand merci à vous, Jean.
Et quand vous voulez, donc, pour la suite de toutes ces aventures. Retour à la musique, on va le faire avec un groupe qui peut évoquer un petit peu de gasconitude, d'occitanitude, Barut, qu'il s'appelle Loupletz de la Noite. C'est la traduction, Loupletz, je ne sais pas si je prononce bien, P-R-E-T-Z.
Le prix
de la nuit. Loupletz de la Noite, avec le groupe Barut, cette de jolie polyphonie. Et ça fait partie, évidemment, sur Radio MDM, de notre éclectisme musical. Adi Schatz, Paul Faury.
Adi Schatz.
Je me suis permis de le dire, je ne sais pas si j'ai bien fait.
Lupres de la neit que sui presta paga es pasu de la morni de l'autoritat sinulu de la mare dal vent dal machi lusun de las vagos les perdas a mi luco de bastun que si os peba ya es pasu de tun cor mas lu de tasam e las granodas y que se os asemena las bayaren per prat qui dicen libertad
Lupres de la neit Lupres de la neit Lupres de la neit Lupres de la neit
Cusim un cusim Fugueres un nome, fugueres un mai natino seres perché ma mansare sto avante tegna fra e ma buco mal di lume se che ta fa Augure nus popres en la dariero chanzo Gesi plu preges pases la luto cavanzo Senti camarado, sent un amo sui mort A me tu punchi adema es un giundo
Lupres de la neit Lupres de la neit Lupres de la neit Lupres de la neit Lupres de la neit
de la neit, lu prez de la neit, lu prez de la neit.
Gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.